Vous écoutez RTL.
9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant et en exclusivité au micro de Steven Bellery, les confidences de Mick Jagger sur le concert que donneront les Stones à Marseille le 26 juin prochain. La Ch'tite Famille sera-t-elle le succès de l'année? Stéphane Boutsock nous donnera le nombre d'entrées réalisées par le film de Danny Boone dans les Hauts-de-France, où La Ch'tite Famille est sortie en avant-première vendredi, je vous le rappelle. Dans les salles également aujourd'hui, Call Me By Your Name et sa révélation, le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet. J'ai bien prononcé son nom?
Absolument.
Merci. Harlequin, la célèbre collection de romances amoureuses, fête ses 40 temps, reportage de Bernard Lehu sur un phénomène unique d'édition. Et puis le plateau télé d'Isabelle Morini-Bosque avec un duel à distance entre carnivores et vegan sur M6 Top Chef consacré aux abats et sur France 5 le documentaire Faut-il arrêter de manger des animaux ?
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avant tout, nous vous l'annoncions lundi matin sur RTL. Les Rolling Stones se produiront le mardi 26 juin au Stade Vélodrome de Marseille. Nouvelle date dans le cadre de leur No Filter Tour. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez joint hier soir Sir Mick Jagger. C'est en exclusivité pour RTL.
15 minutes pour évoquer avec la superstar du rock ce prochain concert. Un entretien en français qu'on écoutera en intégralité dans Laissez-vous tenter le vendredi 16 mars. Pourquoi ? Parce que c'est le jour d'ouverture de la billetterie ce concert. Les Rolling Stones repartent sur les routes l'été prochain et Mick Jagger parle sur RTL.
L'année dernière, on a fait beaucoup de shows en Europe pour le No Filter Tour. Un grand succès pour nous. Alors, on fait beaucoup de shows pour l'été. Alors, Marseille, c'est le seul show en France.
La première fois que vous aviez joué avec les Rolling Stones à Marseille, c'était en mars 1966.
Oui.
Et vous aviez été blessé sur scène?
Je me souviens, j'étais blessé sur un oeil avec une chaise. Et j'étais à l'hôpital, mais c'est pas très grave. Hein. J'ai un grand bleu sur mes yeux, autour de mes yeux, comme j'étais dans une bagarre.
Est-ce que vous diriez que vous avez le même plaisir sur scène aujourd'hui que dans les années 60?
C'est différent parce que maintenant, c'est pas les petites boîtes, c'est les grands stades, cette tournée, par exemple. Et c'est différent comme ça, mais c'est plus ou moins le même plaisir, jouer la musique.
Vous avez dévoilé deux chansons originales l'été dernier, sous votre propre nom. Est-ce que vous travaillez sur un album solo?
Non. Les chansons comme ça, c'est juste comme ça. À ce moment, je travaille un peu sur un nouveau album de Rolling Stones, mais je ne sais pas quand il va sortir.
Donc c'est pour ça que vous étiez en studio le 2 décembre dernier, cette photo que vous aviez mise sur Twitter.
Oui, c'est ça.
Et vous aimeriez retourner en studio dans quelques mois avec vos amis?
Peut-être pas avant la tournée, mais après.
Mick Jagger travaille sur un nouvel album.
C'est comme ça, on dirait que vous parlez à un copain.
Mais vous savez qu'il a un château qui est à Possé-sur-Cisse, c'est juste à côté d'Amboise. Il vient fêter son anniversaire chaque année. Et donc Mick annonce sur RTL un nouvel album des Rolling Stones, Confidence en exclusivité sur RTL. Ce sera le premier disque d'inédit depuis Big Bang, qui était paru en 2005. On se souvient que les Anglais avaient aussi revisité en 2016 des classiques du blues. Rendez-vous donc le 16 mars dans Laissez-vous tenter pour la suite de cette interview.
C'est le 06 83 70.
Ne faisons pas les malins. On dit la vérité, en fait. C'est lui qui appelle.
Lui qui appelait,
voilà. Donc on appelle le producteur et le producteur dit mais Mick vous rappelle dans l'instant, cher Steven.
Mais il connaît votre prénom. Il est
absolument.
Très parfait.
Mais nous ne connaissons pas son 06, que les choses soient. Pas la peine d'envoyer des chèques à Steven Bellery. Enfin, si, vous pouvez le faire. Parce que...
Oui, oui.
Mais voilà, pardonnez-moi.
Alors, mon adresse, c'est.
Allez, le cinéma. Peut-être choisirez-vous d'aller vous réchauffer dans une salle de cinéma aujourd'hui et qui sait de voir au passage un des 10 nouveaux films à l'affiche. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Avant de parler de ces nouveautés, un mot de notre box-office de la semaine.
Oui, avec nos amis du site cbo.fr, c'est fait. Depuis hier soir, les Tuches 3 ont dépassé les 5 millions d'entrées. Ça y est, c'est fait. Globalement, les vacances de février profitent aux valeurs sûres. Le Labyrinthe 3 approche les 2 millions. Black Panther est à 1,8 million. Belle et Sébastien 3 à 900 000 l'entrée. Le retour du héros approche des 600 000. Pour les nouveautés, joli démarrage de La Forme de l'eau autour des 310 000 spectateurs. Et puis en revanche, c'est raté pour Les Aventures de Spirou et Fantasio. 120 000 entrées seulement.
Un box-office qui sera évidemment bouleversé dès demain matin par le score très attendu de la grosse sortie de ce 28 février avec RTL, La Ch'ti de famille 2. Et avec Danny Boulle.
Alors des chiffres encore, depuis vendredi, rien qu'avec la sortie avancée dans les Hauts-de-France, le film a déjà atteint les 200 000 entrées, auxquelles il faut rajouter les presque 100 000 des avant-premières dans tout le pays. Ça nous fait donc quasiment 300 000 spectateurs avant la sortie nationale de ce mercredi. Cette Ch'ti de famille, fable drôle, émouvante, sur les racines, la famille justement, la réussite. Danny Boulle a imaginé la mésaventure d'un designer mondain, parisien, amnésique, volontaire de sa jeunesse dans le Nord, qui va voir ressurgir son passé et devoir l'affronter pour mieux le retrouver à la faveur d'un accident qui le ramène à ses 17 ans. Accent ch'ti à la clé. Extrait, l'épouse de Valentin, Constance, interprétée par une remarquable Laurence Arnaud dans le film, tente de prendre des cours de ch'ti pour comprendre son mari.
Moi, je veux pas apprendre, je veux comprendre.
Mais pour comprendre, il faut apprendre.
Hein?
Choche un bon début.
Alors, je vous écoute.
Il n'y a pas de subjonctif. On dit, il faut que j'y vais.
La conjugaison.
Non. Attends, on a un temps.
D'accord. Oh merde, j'ai mis de l'berdoul sur ma godoche.
Bien.
Ouais. Très peu de mots en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est
ça. Pas de conjugaison.
Non, pas besoin.
La tazingue.
Non, la wassang.
Ah, la wassang.
Wassang, washing, américain. Ouais. Ok, sympa.
C'est violent, hein, quand même.
Laurence, j'aime bien, c'est violent. Laurence Arnaud, donc, et notre camarade Jean-Philippe Janssen, évidemment, dans cette scène, aux côtés d'Annie Boone, Valérie Bonneton, Lynn Renault, Pierre Richard, François Berléand, Guy Leclis, formidable troupe au service d'une comédie élégante, bien écrite, filmée avec soin, à l'affiche, donc, des Hauts-de-France depuis vendredi et partout en France avec RTL dès ce matin.
À 4 jours maintenant des Oscars, on va aussi découvrir ce mercredi 2 films nommés pour cette 90e cérémonie hollywoodienne.
Je vais commencer par Call Me By Your Name de l'italien Luca Guadagnino, une des grande sensation cinéma de ce début d'année. Nous sommes dans les années 80 au cœur d'un été torride en Italie. Elio, jeune homme de 17 ans, issu d'une famille américaine intellectuelle, bourgeoise, passe des vacances studieuses et oisives à la fois entre lecture, balade en vélo, flirte avec une jeune fille du coin. L'innocence d'Elio, mais aussi ses doutes, ses troubles, vont être bouleversés par l'arrivée d'Oliver, bel américain, plus âgé que lui, engagé pour aider son père. Peu à peu vont se nouer des liens de plus en plus sensuels entre les deux garçons, sur fond d'interdit, d'éveil du désir. Call Me By Your Name est une splendeur visuelle. Il faut dire que le film est produit par James Ivory, quand même réalisateur de Retour à Howard's End ou Des Vestiges du Jour. Parle divinement de cet âge où adolescents et adolescentes ont la candeur énervante de passer, vous savez, du rire aux larmes. Oui. Bref, vous savez ça, oui, vous savez ça aussi. Bref, de laisser toute la place à leurs sentiments, de rêver aussi à de grandes choses. Le film repose sur les frêles épaules d'un garçon de 22 ans, Timothée Chalamet, nouvelle coqueluche d'Hollywood. Il est nommé dimanche pour l'Oscar du meilleur acteur.
Génial.
Ce jeune comédien est franco-américain et je lui ai demandé d'abord de nous parler de ses racines tricolores.
Je suis très fier d'être français, je suis moitié français, je suis citoyen français. Je m'excuse à les écouteurs qui peuvent entendre que mon français n'est pas parfait. J'ai un petit accent américain et j'utilise le quelquefois par rapport à là et là et pour le, les. Mais j'ai passé mes étés en France en grandissant dans un petit village qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Mon premier rêve, c'était d'être joueur de football. Je me suis rendu compte à 12-13 ans que j'avais pas le talent ni le physique pour avoir une carrière comme ça, mais je suis grand supporter de Saint-Étienne. J'aimerais bien retourner au Chaudron. Et j'ai beaucoup de fierté qu'il y a une très grande portion française dans ce film. On a des acteurs français dedans, Mira Kazar, Victoire Dubois, Esther Garel.
Et en plus, alors Chambon-sur-Lignon,
ouais.
Et en plus, il soutient les Verts.
Absolument, supporter de Saint-Étienne. Et bien alors maintenant, la question suivante, pourquoi pas le voir bientôt à l'affiche d'un film français?
J'espère que l'opportunité se présente où je peux faire des films en français avec des réalisateurs français comme François Ozan ou des réalisateurs qui tournent en français comme Xavier Dolan. Ma vie en France, c'était jamais vraiment trop du côté acteur ou créatif, c'était plutôt du côté écouteur. Alors c'est super cool d'être ici maintenant comme acteur et en célébration d'un film dont je suis très fier et plusieurs de gens, ils ont une réaction très émotionnelle, pleine d'émotions de ce film.
Il est charmant.
Ouais, et c'est un grand comédien, vous le voyez donc à l'affiche aujourd'hui de Call Me By Your Name. Il a tourné depuis dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Bon, il a pris un petit peu ses distances avec le metteur en scène. Et il est aussi à l'affiche, figurez-vous, ce mercredi de Lady Bird. Bird, non. Autre film nommé aux Oscars. Là, j'étais moins sensible à cette énième étude sur une ado au bord de la crise de nerfs, muselée par une maman autoritaire dont le rêve est d'aller étudier à New York. Tout de même, belle énergie, quelques moments forts et 5 nominations aux Oscars, dont celle de la réalisatrice, c'est très rare, donc il faut le signaler, réalisatrice Greta Gerwig.
On est ravis de découvrir Timothée Chalamet. Oui. Autre jeune actrice à l'honneur cette semaine, Stéphane, Afsia Herzi, de retour à l'affiche dans L'amour des hommes.
10 ans tout juste après son César du meilleur espoir féminin pour La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, la voici en artiste photographe, subissant le deuil de son compagnon, retrouvant aussi le goût à la vie en décidant de prendre des clichés d'hommes de la rue dans des positions lascives, avec ou sans vêtements. Précision importante, le film de Mehdi Benatia se déroule de nos jours en Tunisie. Thème sensible donc dans un pays musulman, toujours dans les soubresauts de sa révolution. Afsia Herzi, d'origine tunisienne par son papa, a tourné L'amour des hommes là-bas et découvert les conditions de vie des femmes.
J'avais été quand j'étais petite et après plus, juste pour un tournage en 2009, parce que moi j'ai un peu peur de l'avion, donc j'essaie d'éviter de prendre l'avion. Et après, quand j'y suis retournée pour le film de Mehdi, donc c'était après la révolution, j'ai pas senti un gros changement, mais en parlant avec des amis que j'ai là-bas, ils racontaient qu'ils se sentaient mieux, qu'ils avaient plus peur de parler, Enfin, les gens se sentent mieux, mais les femmes, elles ont du caractère, hein, les femmes tunisiennes, hein, elles se laissent pas faire, elles ont des projets, il y a beaucoup de femmes artistes, à fort caractère, vraiment. En tout cas, moi, mes amis et les gens que j'ai pu rencontrer, les femmes, elles sont costauds, quoi.
Afsia Herzi dans L'amour des hommes, à découvrir au cinéma ce 28 février. Elle termine son premier film de réalisatrice, histoire de boucler la boucle. Il est produit par Abdelatif Kechiche.
Elle est très belle sur l'affiche. Je me suis retourné plusieurs fois dans les rues de Paris, pour me dire. Allez, dans quelques instants, on reparle spectacle avec Monsieur Bellery. Nous allons balayer l'actualité musicale de la semaine à présent avec Steven Bellery qui est toujours avec nous. Et on débute avec la sortie prochaine du volume 2 de Souchon dans l'air.
10 mois après le premier opus, une seconde compilation sortira le 6 avril prochain. Le répertoire d'Alain Souchon passera à la moulinette de Vianney, Adrien Gallo des Bébés Brunes, Gaëtan Roussel, Alex Baupin ou encore Maxime Le Forestier. Un casting peut-être plus exigeant que la première galette, mais qui fera probablement preuve de plus d'audace. Le tout premier extrait est une reprise de Somerset Maugham, chanson qui n'était sortie qu'en 45 tours. Elle avait été ajoutée à la réédition de l'album On avance en 1983. Et c'est Kerenan qui s'approprie le titre.
Ils sont faits pour deux, ces bonbons. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cup. Claquer les tirelis quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux, ça me faisait souffrir comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
Souchon dans l'air, volume 2, à paraître le 6 avril.
Voilà une belle surprise. Un morceau inédit d'Amy Winehouse vient d'être dévoilé, Steven.
Près de 7 ans après sa disparition, c'est un cadeau presque inespéré pour ses fans. Une vieille démo refait surface. Amy Winehouse avait laissé de nombreuses maquettes dans ses placards. Certaines avaient trouvé leur place dans Lioness Hidden Treasures, compilation post-mortem. Les autres avaient été détruites par sa maison de disques, visiblement pas toutes. L'une de ces démos a été retrouvée par le producteur Gil Kang, avec qui Amy Winehouse avait travaillé à ses débuts avant la sortie de Frank, son premier album en 2003, le musicien a décidé de la mettre en ligne gratuitement. Amy Winehouse n'a que 17 ans quand elle enregistre ce morceau intitulé My Own Way, un titre plus pop que le chemin qu'elle empruntera par la suite. Extrait. Seems to be illogical, love it's unconditional, yeah. Give your all to someone else. For yourself, and that's why I'm taking it in my own time, and I'm out of my own way. I'll walk when I wanna, talk when I wanna, when I wanna talk. patente maturité d'Amy Winehouse alors qu'elle n'a que 17 ans. My Own Way est en écoute sur Internet.
Et nous allons terminer avec une idée de sortie, direction le théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris, où le spectacle duel se joue jusqu'au 15 avril.
Ni du théâtre, ni un concert, un duo, un dialogue entre deux musiciens, un pianiste et une pianiste et un violoncelliste, mais sans aucune parole, pas un mot ou presque. Simplement des regards, des attitudes, c'est complètement loufoque. Hein. On est clairement dans l'absurde et le burlesque, la musique pour seul moyen de communiquer et de se défier. Exemple, quand monsieur quitte la pièce brièvement, madame s'amuse. On rit, on entend du Chopin, du Bach, du Beethoven, Carmina Burana, le lac des cygnes et des duels pop. La pianiste Nathalie Miravet et le violoncelliste Laurent Sirade s'amusent avec les Beatles. Et bien évidemment, les Rolling Stones. Foutrac, bancal, oui, brouillon, souvent caricatural, mais au final attachant. Ça s'appelle Duel et c'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris jusqu'au 15 avril. À partir de 18 euros, une tournée est prévue.
Et ce journal musical était signé Steven Bellery. Alors, Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez d'amour ce matin avec les éditions Harlequin qui fêtent leurs 40 ans.
Mais oui, un phénomène unique dans l'édition. Harlequin traverse les générations de lectrices avec un succès constant à tel point que le nom est entré dans le langage commun. Un Harlequin est devenu synonyme d'une bluette sentimentale, d'une romance. Alors avant d'arriver dans l'Hexagone, c'est au Canada qu'a été créée la collection en 1949, comme le raconte la directrice d'Harlequin France, Karine Lalini.
La femme du fondateur, Marie Bonnycastle, souffle à son mari l'idée que ce que les femmes ont envie de lire, c'est des histoires d'amour qui finissent bien. Ça, c'est le code indispensable à une bonne romance, sinon ça n'est pas une romance.
Et mais Harlequin va mettre un certain temps avant de débarquer, si je puis dire, en France.
Il faut attendre 1978 pour que Harlequin arrive en France, en fanfare, puisque dès le départ, c'est une maison d'édition qui se fait connaître avec des campagnes de communication très importantes. On se souvient peut-être des campagnes des années 80 avec Michel Piccoli qui, à la radio, lisait des extraits Harlequin. Tout un monde d'évasion, c'était un slogan dont on nous parle encore aujourd'hui, alors que ça, pour le coup, ça datait des années 80. Sans doute que les lectrices françaises aussi attendaient avec impatience qu'on leur raconte des histoires d'amour qui finissent bien.
Et en chiffres, comment se traduit le succès d'Harlequin ?
700 titres publiés chaque année, 4 millions de livres vendus. Ouf. 2 millions de lectrices, plus de la moitié ont moins de 45 ans. Alors on pourrait s'étonner au 21e siècle de la réussite de ces déclinaisons à l'infini, du mythe de la bergère et du prince charmant, voire les trouver ringardes, alors que les femmes revendiquent leurs droits, y compris en amour. Erreur, s'insurge Karine Lalini.
Les femmes ne sont pas dominées dans ces romans, ce qui peut être l'idée reçue, encore une fois, quand on les regarde de l'extérieur. Dans le jeu amoureux, à la fin, c'est la femme qui gagne, toujours. C'est pour ça que pourquoi les femmes lirait-elle aussi massivement des romances pour se changer de leur quotidien, si c'était pour y retrouver quelque chose de la domination qu'elles subissent peut-être dans leur réalité. À la fin d'une romance, c'est la femme qui gagne. Je vous le dis avec une grande sérénité, ce sont les femmes qui gagnent à la fin.
Grande sérénité. Alors, une femme qui gagne à coup sûr, c'est l'auteur vedette d'Harlequin, Emily Blane.
Oui, sous ce pseudo sonorité anglo-saxonne se cache une Française lauréate d'un concours lancé par Harlequin en 2012. Sa série Dear You a fait un carton en 2014. Emily Blane a vendu 400 000 livres, mais elle reste quasiment ignorée du grand public, des médias et même de certains libraires.
Alors moi, je le vis très très bien parce que j'assume totalement ce que je fais et j'assume écrire des histoires d'amour et écrire pour Harlequin. Je revendique même quelque part. Ce que j'apprécie moins, c'est le mépris qu'il y a pour le lectorat en fait. C'est-à-dire ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, il y en a quelques-uns tout de même, qui vont dans les librairies et à qui on répond « non, c'est du Harlequin, on fait pas ça, quoi, ça c'est pas possible ». Déjà, c'est très méprisant et puis ce n'est pas honteux de lire, enfin, c'est quand même un comble. Et parce que ce lectorat-là lit énormément, donc je suis très étonné qu'on le mette de côté, alors que l'édition a besoin de ces gens-là, qui lisent de la romance mais qui ne lisent pas que ça, pour le coup, et qui sont de très très grands lecteurs. Donc ça m'agace profondément.
Et alors ne dites surtout pas Emily Blane qu'elle écrit des romans à l'eau de rose, vous allez la fâcher encore plus.
Je pense qu'au contraire, la romance, un, est faite pour faire rêver, et deux, est tout à fait le miroir de la société. C'est-à-dire qu'on a des couples homosexuels, on a des familles séparées, des familles recomposées, voilà. Et du coup, je pense que le côté eau de rose, enfin, à mon sens, ne représente pas du tout la romance actuelle, en tout cas. On est passé à autre chose, avec même des scènes très explicites sur des scènes de sexe, par exemple. Donc, non, je pense que les choses ont beaucoup changé, et heureusement.
Bah dites donc, elle a de la personnalité, hein, Millie Blaine.
Ah, vous avez remarqué. Alors, elle a 36 ans. Elle est née en Bretagne. Aujourd'hui parisienne, cadre à la SNCF et mère de deux enfants. Et elle mène avec énergie sa double vie.
Alors, ça s'organise bien, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement conciliant. Et puis après, bah, c'est très cloisonné, c'est-à-dire qu'au travail, je ne fais que le travail. Le soir, une fois que les enfants sont au lit, là, effectivement, c'est le monde de l'écriture et de l'édition qui reprend le dessus. Ça peut être 21h jusqu'à minuit, 1h, voilà. Mais comme je vous le dis, j'ai appris à dormir très peu. Moi, qui suis une grosse dormeuse, j'ai fait des sacrifices sur le sommeil. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que ça s'est très, très bien équilibré et assez vite. On a vite trouvé nos repères. Et par contre, il est aussi convenu que si l'un des deux va trop loin, il le dit à l'autre, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de se voir aussi.
Oh
un
là
peu.
Là, elle est cool, hein.
Émilie Blaine, la petite française devenue l'auteur star d'Arlequin. Son dernier roman a pour titre Si tu me le demandais. Alors, quant aux 40 ans de la collection, ils seront fêtés au Salon du Livre de Paris à la mi-mars.
Mais oui.
Avec l'exposition Arlequin, 40 ans d'histoire d'amour.
Et moi, j'ai une copine, Brigitte Fellow, qui achète régulièrement les romans d'Arlequin.
Oui, c'est Isabelle Morini-Bosse que vous venez d'entendre.
Ah, je ne suis pas Brigitte Fellow, moi.
Elle nous parlera télévision dans un tout petit instant. On commence donc avec les audiences et médiamétrie, Isabelle.
Audience très éclatée, mais je suis contente car La Stagiaire sur la 3 est en tête. 4 500 000 téléspectateurs et 18% du public sur la 3. C'est 950 000 personnes, oui, de mieux à la louche que Gone sur TF1. Et troisième, la spéciale sur les prédateurs. 3 200 000 curieux étaient sur la 2. 14% du public, c'est très bien. Alors, et côté TNT, c'est Transformers sur France 4 qui est en tête. 910 000 téléspectateurs.
Nous sommes mercredi, on commence par un point sur les fictions ce soir.
Oui, la série Blacklist passe ce soir de 21h à 23h30, remplacée en première partie de soirée par Esprit Criminel, où l'on traque des tueurs en série. J'aime beaucoup cette série qui marchait peu, puis mieux, puis de mieux en mieux. Ce soir, des jeunes femmes sont enlevées, elles étaient actives, elles sont captives, et l'équipe très réactive. Petit bémol, moi ça m'amuse toujours, la petite phrase sentencieuse du début.
T.S. Eliot a écrit « C'est ainsi que finit le monde, pas sur un boom ». Et sur un murmure.
Mais bien sûr. Oui. Cela dit, moi j'ai un faible pour le feuilleton de la 2, Leibovitz contre Leibovitz, du nom, je le rappelle, de ces deux veuves, tour à tour mariées au même homme. Il avait créé avec la première, Clémentine Sélary, un cabinet d'avocats, légué à la seconde, Caroline Anglade, à qui il a en plus fait un marmot dont s'occupe surtout Clémentine Sélary, qui, sans se l'avouer, s'y attachait et l'emmène partout.
Allez, on va chercher des couches.
Apple, c'est à propos de Simon.
Ça tombe très bien. Vous me tenez deux secondes. Merci.
Maman. Je rêve. Oui, vous a dit maman là.
Vous a dit maman.
Oui, j'ai pas remarqué. Mais vous, mais non, mais je suis pas folle. J'ai bien entendu. Vous a dit maman là.
Bon, Irène, s'il avait dit maman à l'âge qu'il a, ça voudrait dire qu'il est surdoué. Auquel cas, il ne serait pas de vous. Je voilà. Des couches.
Donc 21h, la 2, j'aime beaucoup.
Alors il y a une aimable percussion ce soir entre France 5 et M6. Oui. Une sorte de thématique en fait sur la bouffe, la bonne et la mauvaise.
Oui, et dans les deux cas, certains ne seront pas dans leur assiette. Il y a des images dures. Sur la 5, c'est un doc intitulé Faut-il arrêter de manger des animaux. Et sur la 6, c'est Top Chef, où l'on mange des animaux. En fait, c'est le même combat pour le mieux consommer. Prenons la 5, c'est moins un plaidoyer pour le véganisme qu'une enquête extrêmement complète sur la désastreuse mondialisation de l'alimentation et ses conséquences, mais aussi sur les individus tentant avec succès autre chose, comme cet Américain qui a un élevage de 200 porcs en stabulation libre. Ces animaux mènent une vraie vie de cochon, avec leur caractère de cochon, contrairement aux truies d'un élevage fermé 10 fois plus gros, où elles ne peuvent même pas se tourner. Écoutons ce spécialiste américain.
Ce qui s'est passé, c'est que nous avons rendu efficace la production de viande. Nous l'avons industrialisée comme nous avons industrialisé toutes les productions sur cette planète. Avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait rien de tout ça. Les gens élevaient 6 cochons, 10 cochons, 200 cochons. Personne n'élevait 10 000 cochons. Tous les cochons étaient en plein air. Les poules étaient élevées par centaines. Maintenant, elles sont élevées par centaines de milliers. On est passé d'une échelle humaine, compréhensible, à une échelle qui est incompréhensible.
Et en face, sur M6, on a Top Chef, particulièrement passionnant car particulièrement pédagogue. L'émission commence par l'épreuve des enfants, un cauchemar, des enfants à qui il faut faire consommer des abats. Et là, abats plus mouflet, c'est trop pour les cuistots.
Ouais, le mot enfant, ça fait un peu peur. Faire manger aux enfants, c'est compliqué. Les gamins, ils aiment pas grand-chose.
Je suis pas bien. je suis pas à l'aise avec les enfants.
Ils sont tellement petits.
Ah, ça pue.
Regardez la cervelle.
mission impossible.
Petit cours accéléré, cœur de bœuf mais aussi cervelle et riz de veau sont pauvres en calories mais riches en fer, en acides gras essentiels, en vitamines, notamment B12. Écoutons le cuisinier militant Stéphane Jégot.
Les gens, par rapport aux abats, ils ont un regard complètement négatif. Ils voient un côté dur, fort de l'abat. Et je pense que c'est là justement que les gens ils se trompent complètement. Dans les abats, il y a une grande douceur. Et quand on ne garde pas cette douceur, c'est-à-dire qu'on a travaillé l'abat d'une mauvaise façon et qu'on n'a pas su le respecter. Les abats sont bons pour la santé. Ça te renforce ton système immunitaire parce que ça t'apporte des choses utiles pour l'organisme. Il n'y a pas de mauvais abats, il y a surtout des mauvais cuisiniers. La technique de cuisine, elle va rester simple. On peut partir sur une cervelle de veau, on la poche, beurre, rôti, terminé. Et après, avec ça, on joue avec. On peut très bien aller sur une pistache, une noisette, une cacahuète, une croustillant, mais on doit garder la matière. La joue de veau, c'est pareil, cuit dans un bouillon traditionnel, pas brusqué, imbibé, gorgé. Quand tu le sors du bouillon, tu le rôtis, tu as la croustillante, ce côté vraiment végétal grillé, etc. Beurre, noisette qui te robe le tout, c'est génial.
Je vois votre tête que vous, les abats, c'est pas votre truc.
Ils savaient ce qu'ils mangeaient, les gamins, ou pas, les mouflets?
Non, ben, bah, oui, justement, au début, ils veulent pas, et après, quand c'est bien enrobé de tas de choses et que ça sent absolument plus la cervelle, ils adorent. Donc 21h la 2, c'est très la 6 pardon, la 6, c'est oui. très intéressant. Même moi qui n'aime pas la cuisine, là j'avoue que ça m'a passionné.
Je serai devant mon téléviseur. Un Top Chef, je ne rate pas.
Allez. Ah bah justement, il passe la musique d'Abba dans l'émission forcément.
Voilà. Allez, à tout de suite pour accueillir Julien Courbet. Demain, merveilleux rendez-vous, puisque nous serons avec Sophie Marceau, Stéphane.
Oui, pour son nouveau film de réalisatrice et d'actrice, Madame Mills, une voisine si parfaite.
Parfait, et nous on part tout de suite au Salon de l'Agriculture pour retrouver Julien Courbet.